C'est exceptionnel comme témoignage, ça.
Ah bah oui.
Bon.
Non, mais c'est pas. Je parle pas de sa façon, c'est du contenu là.
Oui, vraiment.
C'est riche d'espérance.
Quand
alors, on va peut-être. On va peut-être passer au débat dans la salle. Oui, Denis.
Oui, simplement une question qui m'est venue. Enfin, je suis interrogé sur ce que disait Quentin par rapport au fait que les gens n'ont pas conscience de leur dignité, de leur capacité qu'ils ont à dénoncer les situations, etc. Et je me suis posé la question de savoir si ce n'était pas l'école qui était au départ de cette situation, parce qu'on apprend aux enfants à être obéissants, à fermer leur gueule, à ne pas poser de questions. Et je me dis que quelque part, la société, c'est-à-dire l'ensemble des individus, qui a accepté l'école style Troisième République à une certaine époque, etc., est passé maintenant à un stade où l'école est devenue tout à fait autre chose et qui produit des individus qui sont, d'une certaine façon, irresponsables.
Mais de toute façon, à l'école, on ne parle pas de lutte. On parle pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que je m'en suis rappelé ce que j'ai appris à l'école dans mes livres d'histoire et ce que j'ai appris après en étant en lutte et au sein de du syndicat, au sein de mes propres recherches sur les luttes. Et je me suis, ce qui m'a choqué, c'est que ça, on ne l'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas qu'il y a eu des grandes luttes, et qu'il y a eu, que ça fait 150 ans qu'on lutte contre ce modèle-là, etc., que c'est pas nouveau, en fait, ça ne vient pas de sortir juste. Hein, ça fait longtemps qu'il y a un cheminement de lutte qui est lancé, et donc juste il faut en mettre conscience, c'est vrai, il faut en mettre conscience, ne pas l'oublier, parce que ça fait partie de nous. En fait.
Juste par rapport à ce que tu viens de dire, je dois dire que j'ai découvert en arrivant dans le bassin de Cazeville, en étant enseignant au lycée, comme tous les autres enseignants de ce lycée-là, mais j'ai découvert une chose, c'est que il y avait comme une déteinte du climat général de revendication, d'organisation correcte de la société envers les ouvriers, quoi. Et que ça déteignait bien, quand même, à l'époque, bon, peut-être moins maintenant, mais dans le fonctionnement du lycée. On avait des parents d'élèves, et donc on avait les élèves aussi, qui avaient cette tendance-là. Et je me souviens, lors de certaines grèves, entre autres, une surtout, quand il y a eu la suppression d'un emploi et demi de maître auxiliaire, la façon de maître d'internat surveillant d'externe, la façon dont les élèves ont reçu l'empêchement finalement de fonctionner parce qu'ils n'étaient pas là, que les autres étaient en grève, et malgré tout le lycée a continué à très bien fonctionner sans la présence, parce qu'il y avait une volonté de la part des jeunes, une conscience de la part des jeunes, qu'il fallait qu'ils continuent à bosser, bien que les autres soient... Il y avait une espèce de solidarité dans le fonctionnement du pays. Cette solidarité, elle est venue au point que on a payé tous les salaires par une solidarité entre parents d'élèves et entre enseignants. On a payé les salaires des grévistes pendant un mois et demi. Donc là, il y avait une solidarité, et quand on est revenu de la négociation où on avait récupéré non pas un poste et demi, mais un poste seulement, quand on est revenu de la négociation à Toulouse, parce que la négociation n'a pas eu lieu sur place, on nous a demandé de venir au rectorat, ça avait quand même atteint le rectorat, c'était pas que Rodez. Et on nous a téléphoné en route, vous rentrez pas au lycée, vous venez sur la place de Cazes. Et ça, moi, je dois dire que c'est un souvenir extraordinaire de voir le peuple qu'il y avait sur la place de Cazes avec notre retour de négociation. Voilà. Et c'est vrai que les maîtres d'internat, surveillants d'externat à l'époque, ils avaient fait grève. Donc ils étaient, allez, on va dire, deux tiers à faire grève. Et par la caisse de solidarité du lycée et pas extérieure au lycée, il y avait eu ça. Et je dirais que à l'époque, de la part du fonctionnement du lycée, c'était quand même quelque chose qui était intégré, qu'on pouvait toujours faire autrement que ce qu'on nous imposait. Voilà.
Mais moi, je parlais de l'école. c'est-à-dire la classe primaire, c'est-à-dire l'imprégnation au départ.
Mais justement, tu pourrais dire que cette imprégnation va continuer et je crois que le climat quand même du bassin est un petit peu différent. Et où était ? Moi, ça fait 10 ans que je ne suis pas partie du bassin.
Juste donner un exemple, je pense que quand même, je me permets, mais ma fille qui, alors elle a 22 ans, mais je me rappelle qu'au collège, je pense quand même, il y a l'école certes, mais il y a aussi les parents, quoi. Parce que moi, je considère que l'école, elle est là pour donner de l'enseignement, et je considère que les parents sont là pour donner de l'éducation.
Oui.
Ce qui fait une grande différence, et je pense qu'il y a des parents en ce moment qui, enfin, beaucoup qui confondent. C'est pas à l'école de tout faire. L'école, pour moi, elle leur donne du savoir, enfin, des possibilités après de faire des choix dans le panel qu'elle leur offre, et des préférences, peu importe. Moi, je me rappelle de ma fille, et ça m'avait un peu choqué parce que je pensais pas, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. Il y a eu une année où la cantine a été catastrophique. Ben, ils n'ont pas attendu un mois, des collégiens, quoi, pour faire une pétition qu'ils ont fait signer dans la cour. Et ils sont allés ramener je ne sais plus combien de signatures, c'était énorme, au directeur en bas en disant ça ne peut plus durer, on ne veut plus votre nourriture. Et moi, ma fille rentre le soir, je dis vous avez fait ça, mais disons, ça ne peut plus durer, quoi. Et ils avaient discuté entre eux, ils n'étaient pas. Donc, je veux dire, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on transmet. C'est pas l'école qui apprend aux enfants, je pense, de leur dire il faut que tu subisses. Alors, j'entends ce que dit Quentin, on a gommé des beaux passages de notre histoire à l'école. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'ai. Puisque moi je ne suis pas tombé dans le syndicat du tout, j'y suis tombé. Tardivement, à 30 ans.
Par besoin.
Oui, alors oui, certainement par besoin au départ. Et à quelque part, je me dis, autant on nous a gommé des morceaux, autant à quelque part, c'est quand même à nous, les parents, c'est quand même avec nous, quoi, qu'ils entendent les conversations à table, c'est quand même avec nous qu'ils voient si on est indigné sur une société, si on pense que les choses. Aujourd'hui, on est tellement limité et on le voit, même y compris dans le monde des salariés, parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, il faut se dire les choses. On est plus dans la consommation de tout que dans la réflexion de où mène la consommation dans laquelle on va. On a envie de bouffer McDo, on bouffe McDo. On se pose pas la question si derrière il y a pas un mec qui a un CDI et s'il est mal payé. Ouais. On est peu, il faut être honnête.
Il y a des fermes de 30
vaches. Ouais, voilà, donc je veux dire, je pense qu'il y a une capacité à être indigné ou pas, ou une, en tout cas une réflexion qu'on transmet à nos enfants ou pas. Je le pense en tout cas.
J'ai répondu sur ce que tu dis parce que c'était la question que je voulais vous poser. Bon, là, vous avez fait la preuve que le syndicalisme, c'est super important, hein, puisque vous arrivez à lutter. Bon, ça, je trouve ça super intéressant. Mais pour moi, effectivement, ça ne suffit pas. Parce que vous êtes dans le droit du travail, faire respecter, faire avancer les conditions de travail dans une entreprise. Bon, je sais que la CGT, c'est aussi autre chose et une pensée globale. Mais bon, pour moi, c'est là-dessus que c'est super important, parce que pour rejoindre ce que tu dis, Denis, effectivement. L'école ne fait pas tout, mais comment l'individu, le parent, va pouvoir inculquer à ses enfants quelque chose si dans sa tête l'idéologie dominante est celle qu'on connaît là, hein, et comment justement amener des éléments qui vont faire que ben voilà, on va en passer autrement, et en plus que c'est possible. Et moi j'aime bien l'idée de s'appuyer sur des utopies. On sait que les utopies, avant qu'elles soient réalisables, elles ne le sont pas. Et moi, bon, je suis assez branchée par le sociologue Bernard Friot et son idée de salaire à vie, parce que ça remet en cause tout le système de la société. Et on en est, enfin, la société, on en est dans une situation où quand David il parle de la réappropriation du travail par les salariés, mais bien sûr, enfin, ben, c'est évident, moi, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. C'est ça qui vers ça qu'il faut aller, quoi. Et donc, à un moment donné, moi, je vous ai pas entendu parler de lutte de classe, je vous ai pas entendu parler de anticapitalisme, bon, c'était peut-être pas le sujet, n'empêche que, je veux dire, à un moment donné, moi, je crois que c'est super important de se dire pourquoi on se bat. Les droits sociaux, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il faut aller au-delà de ça, parce qu'avec la loi travail qu'on nous a imposée et ce qu'on va nous imposer, Mais là, si on est dans le droit du travail, on se fait bouffer. Donc il faut... Il faut y aller là sur... Bon, après on parle à des niveaux différents, je suis d'accord. Mais si on perd aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est trop dans le truc défensif. Et là, il faut y aller. Quoi. Et bon. Après, quelles sont les méthodes c'est... Voilà,
c'est vrai qu'on se trouve. Et je... Pas j'appuie Martine, elle n'a pas besoin de moi, mais c'est vrai que ce côté syndicaliste est assez consensuel dans l'époque où l'on vit quand même. Il manque un tout petit peu de radicalité, même si par ailleurs on voit le témoignage de Quentin, ça amène des victoires, ça amène des avancées, voire même des convictions.
Voilà, hein, exactement.
Mais c'est un tout petit peu trop consensuel.
Je partage l'histoire, tout ce qui est sur la société, la vision de la, globale de la société, tout ce qui est lutte de classe et tout ça, ça d'accord, mais en fait, quand on se rend compte que quand on parle avec les collègues, les salariés, c'est loin pour eux, parce qu'ils sont tellement omnibulés par les médias, tout ça, la société de consommation, en tant que militant, tu vas leur parler de la lutte des classes, d'une autre vision de la société, quand tout le monde est possible et tout ça, tu leur fais peur presque. Si tu leur parles comme si on travaille, comme les poussières de Riquista qui à côté de la pose méridienne, tu vas réussir à les mobiliser. Moi ça me franchement, ça me, des fois, je suis énervé par rapport à mes collègues, je suis fonctionnaire, je suis énervé par rapport à mes collègues. Quand on fait des grèves, juste fonction publique ou juste finance, alors là, ça va mobiliser parce que c'est des revendications précises, maison. Alors que pour moi, je serais plutôt d'avis de Martine que c'est plus important d'avoir une vision globale sur la société interprofessionnelle, intersyndicale, enfin, globale. Il faudrait trouver une convergence de lutte, mais malheureusement, les salariés ils sont plus sur précaré de leur qualité de conditions de travail et je vois que les luttes gagnantes elles sont sur des luttes locales, enfin, d'entreprises, elles ne sont pas sur des luttes, sur des victoires de société, quoi.
Oui, il y a encore une... Si vous voulez prendre la parole par rapport à ça...
On va attendre la question.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec Martine.
vous êtes mis à chaque...
grâce à ça, vous allez avoir la stéréo.
Non, mais je reviens quand tu accuses l'école. Ça me gêne un peu parce que il faut faire notre autocritique. À la dernière manif, là, il y a quelques jours, on était tous à crier derrière le camion « meilleur partage des richesses ». Mais moi, ça m'étrangle, ce truc-là. Pourquoi un partage des richesses? Et entre qui? Avec le capital? Et pourquoi faudrait rémunérer le capital? Est-ce que le capital, comme tu l'as dit un petit peu, il ne produit rien, c'est les travailleurs qui le produisent. Donc pour nous, il faut que ce soit des évidences. Il faut qu'on se réapproprie ce vocabulaire. Pourquoi un meilleur partage des richesses? Pourquoi les dividendes, ça va être la rémunération d'un des facteurs de production, le capital? C'est un facteur de production, le capital? C'est que dalle! Et tous ces trucs-là, c'est à nous aussi de le transmettre à nos enfants. Et c'est bien ce que tu disais, il y a l'instruction et l'éducation. L'instruction, ce sera l'école, l'éducation, entre autres, ce sera nous. Il faut se faire notre propre autocritique avant de dire oh, c'est l'école, le machin, l'histoire. Mais c'est vrai que l'histoire, elle est faite par ceux qui dominent. C'est aussi...
Oui, mais malheureusement, cette part d'éducation dont on parle et qu'il faut mettre en place, souvent elle existe peu, ou pas beaucoup.
Elle est faite par la télévision.
Enfin, ça dépend. Voilà.
Et en plus, voilà. L'instruction à l'école, c'est quand même. Faut en discuter. De l'instruction à l'école, faut en discuter, quoi.
Oui, d'accord. Mais...
L'instruction, c'est l'instruction, quoi, tu vois. C'est...
Sur la question de sur la question de la lutte des classes, c'est surtout pas un gros mot, quoi. C'est surtout pas un gros mot j'essaie de le glisser moi dans toutes les interventions parce que c'est insupportable aujourd'hui. y compris avec, et surtout avec ce gouvernement, mais plus que jamais, on doit être convaincu qu'il y a une véritable lutte des classes et que la classe dominante, ils sont dans une lutte des classes avec la volonté de nous asservir, de nous écraser. Parler dernièrement de remettre en cause qu'il y ait trop de droits sociaux, alors qu'on remet en cause. Tout le monde ici est convaincu, mais sur la question de l'ISF, sur la question de ce qu'avait mis en place Sarkozy. Sarkozy avait mis en place la taxe. Aujourd'hui, c'est au capital, je le répète parce que je l'écris régulièrement, c'est au capital de payer l'addition, et non, la question de répartition des richesses, elle ne peut pas être entre ceux qui la créent, c'est-à-dire tous ceux qui bossent, et ceux qui ne font rien, si ce n'est de capitaliser, d'exploiter, de tuer. Parce que c'est ça la réalité de ces grands groupes qui sont y compris en capacité de collaborer avec Lafarge, par exemple, avec... c'est tout ça, cette réalité. Donc c'est totalement insupportable. Et oui, lutte des classes, plus que jamais, aujourd'hui, demain matin, cette nuit, parce que ce n'est pas possible de voir autant de souffrances, 9 millions de personnes... qui vivent sous le seuil de pauvreté, la précarité énergétique, pendant que certains captent la totalité de ce que nous créons comme richesse. Et oui, par exemple, aujourd'hui, on fait la démonstration que les emplois, l'emploi social et solidaire créent plus d'emplois que les start-up, ce que veut nous vendre Macron. C'est une réalité. Donc, il y a besoin de se réapproprier notre outil de travail, parce que la démonstration est faite que sans patron, ça tourne, la preuve, mais que sans salarié, il n'y a rien qui peut se passer. Voilà. Et dans quelques domaines que ce soit. Et ça, c'est la réalité. Donc, après, sur la notion de ce que tu pointes sur consensuel, il y a une réalité. Concernant notre organisation syndicale, c'est une criminalisation, dernièrement. C'est-à-dire, on sait tout ce qu'a pratiqué la FNSEA, la FDSEA, ces derniers jours, ces derniers mois en Aveyron, mais en Haute-Garonne, 7 millions d'euros de dégâts. Des platanes coupés, 7 millions d'euros de dégâts, pas de plainte de Vinci. Pas de plainte du département, pas de plainte de l'État. Sauf que nous allons sur le viaduc de Millau. On va sur le viaduc de Millau il y a 3 semaines, les cheminots. On ne force pas à lever les barrières. On dit juste à la cadre qui est là, parce que sur Eiffage, ils ont une cadre qui est de permanence le week-end, qui... Voilà. Elle lève d'elle-même les barrières. On a une plainte au cul. Le secrétaire du syndicat, il est convoqué à la gendarmerie, comme Quentin. 3 procès au tribunal. Notamment un, parce qu'il y a une plainte du secrétaire départemental de la CFDT contre Quentin, l'établissement. Donc, automatiquement, je vais être honnête avec toi. Compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si demain, si je le ferai parce que c'est dans ma nature, mais séquestrer un patron aujourd'hui, comme nous on l'a fait à cette époque-là, il voulait sortir, on y foutait la porte par le nez. Bon, voilà. Ou en 2016, quand on a pris le DRH, on dit « tu dégages, parce que sinon, c'est pas la chemise, c'est... » Bon, mais sauf qu'il y a cette criminalisation... Ça amène à des conséquences.
Oui, mais il y a une criminalisation, mais après, on ne bosse pas trop comme ça. Moi, je suis partisan d'une radicalité, mais pas dans la violence. Je n'ai pas envie de tout casser, j'ai pas envie de mettre...
Ah oui, non, mais je ne dis pas que tu as des...
Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une nécessité de radicalité. Voilà. Après, quelle forme elle peut prendre, j'en sais rien. Je sais bien qu'on n'a pas de soutien de la majorité de la population, et encore... Pas officiellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la radicalité, c'est le seul moyen aujourd'hui pour aller vers un autre monde qu'on réclame tous de nos voeux les plus profonds, quoi. on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai 46 ans, ça fait 30 ans que je vois que ça ne marche pas, quoi. Donc, cette forme de radicalité, ce n'est pas des black blocs, c'est pas... Et encore que les black blocs, moi, je ne leur jette pas la pierre, hein. C'est moi qui leur fournis, quoi.
Non, mais,
après... mais bon, tu vois ce que je veux dire,
oui, oui,
tu comprends ce que je veux dire. Après, le consensus, il se fait au niveau des syndicats, au niveau des instances, quoi. Quand on voit Martinez qui va négocier, oui, il n'y a pas de dialogue, mais on est toujours dans le dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Mais on est toujours dans le dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Alors comment on fait,
je voudrais réagir à ça parce que je pense qu'être syndicaliste, c'est être réaliste.
Ah oui, parce que les autres ne sont pas réalistes.
Non mais, alors réaliste dans
ce... Ça c'est vachement consensuel.
Je m'explique. Il y a une grosse différence entre ce qu'on veut, à titre personnel,
et ce que l'on veut.
Ce qu'on souhaite. Moi pour ma part, pour avoir connu la précarité, j'ai décidé à un certain jour de ma vie que celui qui me ferait fermer ma gueule, il n'était pas né.
Oui, oui.
Ça, c'est Laurence, d'accord, personnel. La différence qu'il y a, c'est justement ce qu'on voudrait, ce qu'on espère, ce qu'on porte à la CGT, qui dépasse largement les murs, d'ailleurs, de l'entreprise, dans ce qu'on souhaite et dans nos repères revendicatifs, qu'on appelle dans notre jargon. Et le faisable.
Ah, et le faisable. Ouais. Mais le faisable, c'est juste les frontières
alors,
que tu te mets.
Donc,
c'est tout. C'est a, juste ça.
Il y a deux solutions. C'est où on s'adresse à des salariés et on pense que le syndicat peut leur dire ce qui est bon pour eux, et auquel cas je leur dis à la guerre, cette société c'est une société de merde, et on va aller péter tous ces capitalistes, allez hop, suivez-moi, on y va. Là je suis dans mon rêve. Ou alors, je suis dans le service tous les matins, avec ceux qui constituent la société d'aujourd'hui majoritairement, ou dans l'atelier, et je leur dis, voilà ce qui ne va pas, j'élargis ce qu'on nous fait tous les matins dans les boulots, ou quand j'allume ma télé le soir, c'est-à-dire, j'arrête de leur mettre des petits tiroirs dans lesquels je glisse, tel problème c'est à cause de ça, je ne te parle pas d'à côté, tel problème c'est à cause de ça, et je ne globalise jamais un problème. Je ne le mets pas dans une société. Tu as tel problème parce que c'est ça. Tous les matins, quand tu arrives au boulot, on te farcit la tête, on t'explique pourquoi il faut que tu fasses ça. Ça, c'est parce que voilà, on a un problème d'argent, donc il faut que tu fasses ça comme ça. Tu arrives à ta télé le soir, on te dit, oh là là, il y a eu tel problème en France, mais on te donne la solution de suite et l'explication.
Moi,
c'est à cause de ça.
Voilà.
Donc, sauf que il faut savoir que cette société-là, elle ne s'est pas faite en un an ou en deux ans. Les salariés avec lesquels on est tous les matins, ils sont de cette société dans laquelle on grandit là tous depuis des années. Et appuyer sur le bouton pour se dire « tac, ça y est, c'est terminé, on y va », moi je veux bien appuyer sur le bouton. Par contre, j'ai une certitude, c'est que si je parle comme tu parles, je vais me retourner derrière et je vais me trouver très seul. Par contre, je sais aussi une chose, et ça David a raison de le dire, c'est que par exemple, quand on a fait les 26 jours à Decazes, de grève, on a été quelques courageux. Par contre, effectivement, on a connu des choses qu'on n'aurait jamais connues avant. C'est-à-dire qu'au bout du 16e ou 17e jour, on était tous convoqués au tribunal d'instance à Rodez. Et là, au-delà du fait qu'on était peut-être nous démotivés sur le parking, quand tu commences à parler de 500 euros d'astreinte jour, pour la tête de chacun, 30 000 euros d'amende. Le syndiqué ou le non-syndiqué qui est avec toi en grève dehors, quand il va rentrer chez lui, et que déjà il n'a pas un salaire mirobolant, et que ça fait déjà 16 jours qu'il a laissé le salaire par terre sur le parking, il va falloir qu'il aille expliquer à sa femme ou à son mari qu'il est en justice parce qu'il est en train de... Donc, il faut être réaliste, je pense. Et alors,
moi, je suis réaliste.
Quand on parle...
Boulot, je gagne bien ma vie, je démissionne parce que ça ne me convient pas.
Quand on parle...
Je sais que j'ai d'autres horizons.
Mais prendre une décision personnelle, ce n'est pas le plus compliqué dans notre société. Prendre une décision personnelle dans notre société d'aujourd'hui, on peut tous le faire. Moi, j'ai fait des choix à titre personnel. Là où on fera changer la société, c'est le jour où on arrivera à faire du collectif. Et ce que nous, on arrive à faire, c'est partir, comme tu le dis... De la broutille du matin, arriver à expliquer que la broutille du matin, c'est pas l'explication simple que t'as donné le patron ou le chef le matin, elle vient de bien plus loin, Elles viennent de justement toute une puissance capitaliste qui t'appuie sur la tête tous les matins et que ce que tu es en train de suivre dans ton service. À la SAM, ils sont en train de subir les mêmes méthodes. À l'hôpital, ils sont en train de subir la même méthode. Partout. Sauf que le salarié, pour arriver déjà à le faire grandir et à ce qu'il pense que le problème, il n'est pas lié à la baisse du courrier parce que toi, dans ton petit précaré, non, c'est des méthodes générales. Et on ne va pas refaire grandir les esprits et le citoyen du jour au lendemain. Ou alors, franchement, sauf que tout ce qu'on va faire, nous, par nos petits combats, chaque fois qu'on va se retrouver sur un piquet de grève où on a 24 heures d'affilée pour se parler et justement faire grandir l'esprit, parce que là, on est sorti du boulot, on a le temps. Hein. Sur un piquet de grève, c'est très formateur. On a le temps de se parler. Chacun des petits combats qu'on mène, chacune des expressions qu'on a quand il y a un rassemblement ou quoi que ce soit, fait qu'on peut exprimer des choses, et y compris de reparler de lutte de classe. Alors qu'il a raison si tu arrives le matin en disant « Allez, on est dans la lutte des classes, là, on y a les enfants. » Moi, je veux bien. Moi, franchement, je veux bien.
Il faut les deux.
C'est pas ça. Par contre, quand moi, je parle de elle parle d'utopie.
Oui, très important.
C'est très important. Et ce que je dis souvent à mes collègues, dans le petit monde dans lequel on nous a bien coincés, bien mis, là, quand ils me disent, mais tu te rends compte, tu vas aller demander ça, mais parce que moi, tout le temps, on me dit, alors, ils vont faire quoi? Je m'en fous, je dis, qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà tout le temps la réponse que je fais. Parce qu'on ne pense plus par nous-mêmes. On ne sait même plus penser par nous-mêmes. Et quand ils me disent, mais non, mais on ne va pas aller demander ça, c'est impossible. Et je leur dis, est-ce que tu te rends compte, la gueule du premier patron qui a dû entendre dire un jour à un salarié, dans le monde du fric que nous sommes aujourd'hui, les congés payés, je vais arriver, tu arrives en face un matin d'un patron et tu lui dis, tu sais pas, je vais partir en vacances, je ne travaillerai pas, et tu me payeras. Et bien, moi, chaque fois je leur dis ça, et chaque fois que j'ai un patron en face avec qui je discute, quand il me dit, non mais vous vous rendez compte ce que vous demandez, mais c'est pas possible, et chaque fois je les arrête et je leur dis, vous prenez des congés? Donc dans la merde qu'on est dans notre société d'aujourd'hui, à l'argent qu'on perd tous les jours, vous prenez des congés? Mais c'est honteux, quoi. Donc, oui. C'est ça, je veux dire. Oui, effectivement, il faut nourrir tout ça. Il faut partir d'un idéal de lutte de classe. On ne peut pas parler de lutte de classe au premier abord. Il faut qu'on reste utopiste. Je pense qu'on ne l'est pas. Enfin, on porte une entité de société, mais je pense qu'on est tous convaincus autour. Mais entre ce qu'on veut individuellement et le réussir collectivement, je pense que c'est... Voilà, c'est pas possible.
Oui, oui, oui.
J'imagine le CNR... Je répondrai, oui, non, moi je veux être réaliste, on ne peut pas faire tout ce que vous proposez, ou ça prendra 30-40 ans, et donc il est ici quand même, on peut créer le statut de la fonction publique, on peut créer le régime général de la sécurité sociale, on peut nationaliser les banques, mais non, il faut être vraiment réaliste, on n'y arrivera jamais. Puis ils le font en 2 ans. Ce qui nous manque, c'est un projet de société, mais ce n'est pas du tout l'histoire de « il faut être réaliste », ils l'ont bien fait. Et contrairement à ce que dit Martine, c'est pour un petit clin d'œil, c'est pas une utopie ce qu'on propose. C'est continuer le combat qu'ils ont fait.
Oui, mais c'était pas le même climat. Enfin, ils étaient en guerre. Ça s'est préparé en amont.
Non, mais je pense que c'est. À l'époque, le relier, bien évidemment, au nombre d'adhérents qu'il y avait, à la conscience politique telle qu'elle était. Moi, je crois qu'avoir un projet de société, alors, nous, on porte la question des 32 heures, mais y compris, ça peut être moins. La question de le partage du temps de travail, je sais que vous êtes sur la question du salaire, du salaire à vie. Je veux dire... il faut qu'on fasse le rôle de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'on tire vers le haut et pas tirer vers le bas. Sauf que il y a besoin de retrouver, moi je pense que c'est hyper intéressant ce soir, des espaces de discussion, mais des espaces de discussion où on tire vers le haut, où on élève les consciences, quoi. Et un mouvement de grève, une grève, ça permet aussi, entre salariés, de même établissement, de se reparler. Parce que tu ne te parles plus, parce que les cadences sont inférieures, mais quel que soit le secteur, dans un EHPAD, dans un hôpital, dans une entreprise de la métallurgie, et ça permet de recréer du lien et des espaces de discussion. Et il y a besoin de retrouver cette notion-là casser ces barrières d'individualisme, redonner du sens au collectif, quoi, entre voisins, avec... Et ça, c'est vrai que... moi, je dois avouer qu'il y a des... Je me rappelle plus en 2012 ce qu'à la fin, on a gagné. Par contre, je me rappelle du rapport humain, de salariés qui se reparlent alors qu'ils ne se parlaient plus parce qu'ils étaient mis en position sur les cadences et tout ça. Et ça, ça fait aussi partie de tout ça. Et offrir des perspectives d'avenir, de progrès social, un autre projet de société que celui dans lequel ils veulent nous enfermer. Je pense que, connaît ça à peu près tout le monde, on partage cette notion-là. Là. La question du réalisme sur le syndicalisme de proximité, bien évidemment, mais moi je partage. Mais après, sur la question de comment on dit qu'un autre monde est possible par un projet de société tel que peut-être l'action de la semaine dernière, du 26 mai, même s'il n'y avait rien en commun sur le projet de société, c'était une première étape des forces progressistes pour dire voilà comment on stoppe ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est dans ma nature d'essayer de regarder avec optimisme l'avenir, parce que les choses, elles ne vont pas pouvoir rester ainsi et qu'on a besoin d'éveiller les consciences. Fermer la télé pour... voilà, tu le fais, enfin, tu le fais pas, parce que tu n'en as pas, mais ça y participe. C'est...
Non, mais... Ouais, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas de télé.
Oui, oui.
Je suis super heureux. Je reviens sur la notion de Gérard, parce que toi, tu dis qu'est-ce qu'on fait. Gérard disait proposer un projet. Faut mettre en ordre et dire voilà vers quoi on va. Mais
peut-être qu'il faut.
Moi, à la CGT, on a un projet de société, mais oui. Ici, on n'est pas dans une réunion d'adhérents de la CGT. Donc je ne peux pas me permettre, moi.
Mais moi, il me semble qu'il y a la place dans la société. Même utopique qu'on souhaiterait, il y a la place du politique et il y a la place du syndical, c'est-à-dire la vie dans les entreprises. Si entreprise il y a, si on n'arrive pas à avoir le salaire à vie, bon, on fera quand même toujours quelque chose pendant qu'on aura son salaire à vie, mais bon, il y a la place du politique. Et si tout le monde a envie de prendre sa place dans le politique, c'est ce vers quoi il faut tendre. Mais il l'a dit, il en est sorti transformé, c'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il a pris sa place dans le politique, c'est-à-dire la vision qu'on doit avoir chacun de la société dont on a envie.
Et ça, en fait, on peut tous le faire.
Oui.
On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une personne qui nous dise « Ah mais c'est maintenant, c'est la révolution, ah mais c'est maintenant, c'est la grève générale ». Non, ça c'est à chacun de nous de le décider. Et de le faire, d'aller voir son voisin, de se dire si c'est ça qu'il a envie, de le porter. Mais ça ne sera jamais une personne qui devra vous dire ce que vous devez, enfin, si vous devez vous mettre, vous rebeller ou quoi. Enfin, c'est à vous, ça, de le savoir. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je veux
dire. Oui, justement, en fait, il a donné du sens à sa vie, c'est ce qu'il a dit. Et le problème est que certaines personnes cherchent un sens à leur vie, et donc à un autre monde, une autre société. Et d'autres, le sens de la vie, c'est juste prendre la bagnole le matin, aller bosser, regarder la télé, le frigo, faire les courses.
Oui, mais peut-être que parce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion, ces personnes-là, peut-être
voir plus loin.
Mais voilà, et je ne pense pas que l'école soit responsable. Moi, j'ai grandi dans les écoles franquistes. Comme formatage, il n'y a pas mieux. Bon, je n'étais pas très obéissante quand même maintenant, donc... C'est pas que l'école. Hein. Et peut-être qu'il faut dire, enfin, les gens qui comme tu disais, tu n'arrives pas à communiquer, à dire aux gens, mais ils n'ont rien à foutre parce qu'ils posent leur bagnole, leur crédit et tout ça. Mais peut-être qu'il faut leur dire, mais tu vis pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour qui ? Quel sens tu donnes à ta vie ? Et voilà, toi, tu peux le trouver dans la lutte, et certains, et dans d'autres choses, mais. Aussi comme tu dis, pourquoi je vais obéir et pourquoi quelqu'un va me dire fermer ma gueule, ben non, pourquoi je vais accepter ce système et en effet trouver autre chose. Enfin, là, tel que les choses vont, ça va nulle part. Quoi. Enfin, et puis Macron, enfin, je ne sais pas, il ne faut pas mettre une bombe, mais pourquoi pas. mais pas qu'à lui, quoi.
Je sens pas. Je sais pas. Oui,
moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème, c'est trouver une cohésion entre les gens qui, éventuellement, ont un projet, font une proposition, et puis des gens qui sont supposés pouvoir adhérer et venir aider à ce projet. Je crois que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes nous a donné des exemples qui sont à réfléchir.
Et vu parce la réaction du pouvoir, on peut penser que c'est très
syndical, c'est collectif, et c'est une école d'apprentissage, des échanges et d'une société qu'on pourrait modifier et sur laquelle on peut
c'est avoir dangereux. Des voix.
C'est dangereux.
On le voit au nombre de régimes de CRS qui sont sur place.
C'est dangereux. Mais enfin, au plus il y aura deux ZAD, au moins il y aura deux CRS.
C'est ça.
On est
parti.
Convertir le CRS au ZAD.
Je ne sais pas trop leur avance. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Ouais, je veux dire juste que quand je dis en question, c'est poser la question suite à à des propos sur la gréviculture tenue par un président de la République, oui. Ou un de ses acolytes. Ça qui a un peu énervé, on le dit en question, on a dit qu'on pourrait faire un jeu en question sur la gréviculture. Après, ce mot était plus ancien, il y a une centaine d'années qu'il est déjà pris et qu'il a déjà été mis sur dans les médias, comme on parle de ça. Donc ça fait dire que bien entre nous, mais il nous emmerde à dire que la France est un pays où ils sont pour un rien, on se mobilise. Alors, gréviculture et mot grève, donc, et on va en grève. Mais après, vous devez le voir, et même ça serait bien de, pas de le recenser, mais on en voit partout, il y a des mouvements partout. Que ce soit une ZAD, que ce soit des Chiapas, que ce soit en Palestine, que ce soit les McDo en Amérique, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit les en Amérique du Sud, il y a des mouvements partout dans le monde, il y a des mouvements. Dire que la France est les champions de la gréviculture, ça nous a un petit peu énervé. On s'est dit, ça serait bien si on pouvait faire un mini débat ou une réflexion là-dessus. Donc je pense pas que le français, parce qu'il est gaulois, qu'il a un béret sur la tête et qu'il mange du camembert, il soit pour la gréviste.
On l'a échappé belle. On l'a échappé belle.
Voilà, on l'a jamais belle ici. Pas au béret, là. Et donc, je ne pense pas qu'on soit les spécialistes. Ni la semaine, il y a quelques temps, là, les Allemands, à Lufthansa, ils leur ont dit on ne veut pas vous octroyer un salaire. Ils ont dit on va peut-être faire grève. Donc, on va réfléchir sur le salaire. Il y a des méthodes différentes. J'entends, moi, qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Mais si derrière nous, il n'y a pas une certaine partie de la population qui a commencé à venir aux jeudis en question, qui se passe dans toute la France, il doit y avoir des jeudis en question dans toute la France ce soir. Parce que c'est le jeudi d'abord. Et des gens qui réfléchissent, et dans les syndicats, et dans les luttes. Et dans notre approche qu'on a eue pour faire cette soirée, on s'était dit, et moi je l'avais dit, ça me gêne qu'on ramène ça aux syndicats. Parce que quand je parle en Palestine, en Notre-Dame-des-Landes, il n'est pas question de syndicats, il est question de gens qui se reprennent en charge et qui disent non, on veut pas ça. Nous, on est de Chiapatec, on veut s'éliminer du Mexique, mais on veut pas se couper du Mexique, mais on veut faire notre vie. Mais on fera l'école, on fera la santé, on fera tout ce qu'on peut pour vivre dignement et bien. Ailleurs, ça sera autre chose. Et si dans une entreprise, chez McDonald's, il y a 3 mecs, 5 mecs, 10 mecs qui ont envie de dire au patron, nous, on veut des choses de sécurité et pas ton masque à gaz parce que j'ai le bouc, ça semble tout à fait logique qu'on aille défendre cette envie de dire non, pas ça chez nous. C'est un des moyens. Après, on ne peut pas dire aux gens, et je suis entièrement assez d'accord avec Laurence aussi, après aussi avec d'autres, dire c'est de suite maintenant qu'il faut qu'on tous on sorte derrière un tel qui va. Non, le derrière un tel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est
ce qu'on veut.
Ça marche parce que toi, dans ton. Et c'est le but de la grève aussi, ou de la mobilisation, de la manifestation. C'est de se retrouver, ça a été dit, se retrouver, discuter, parler. Je dis en question, grève, mobilisation, manifestation, dimanche, bistrot, tout ce qu'on veut. Parler de ce qui ne nous convient pas. Mmh. Et ceux qui regardent la télé, leur frigidaire, leur voiture, eh bien, ils vont y venir. Ça prendra... Bébé, c'est pas gênant. Comment ça? C'est pas gênant que ça prenne 40 ans.
Bah, ça dépend, moi j'ai 46 piges quand même.
Non mais tu penses qu'à toi. Oui, je voulais juste dire que ce que je trouve en tout cas intéressant, déjà parce que c'est vrai que les aventures humaines, j'ai eu la chance d'en connaître, même si c'est vraiment des moments de tension. Ce qu'on a pu vivre, nous, à Decazeville, sur les 26 jours, c'est le début de l'école. D'une, tu commences à arrêter de dire qu'est-ce qui va me faire le patron. Tu commences à dire qu'est-ce que je veux moi. Penser par soi-même. Je pense que le jour où la société leur apprendra à penser par soi-même, au lieu d'écouter comment elle doit penser, ça sera le début. La deuxième, ce que tu viens de dire, c'est qu'on réapprend à vivre ensemble. Parce qu'un piquet de grève, les journées sont longues, épuisantes d'ailleurs. Selon les salariés, plus épuisantes qu'au travail. Tellement que c'est lourd. Et que finalement, tu vides le sac. Et je pense que du moment où on commencera... Alors nous, on le fait à notre petite échelle, avec nos petits moyens. Mais je me dis que si déjà, par tous les conflits qu'on a pu connaître, il y en avait un, on en a eu quelques-uns, on a pu éveiller les consciences de 1, 2, 3, 4 personnes, leur faire découvrir qu'elles peuvent réfléchir à elles ce qu'elles veulent dans le travail. Ça veut peut-être pouvoir dire qu'elles peuvent réfléchir elles aussi à ce qu'elles veulent en dehors du travail. Et nous, les 26 jours qu'on a connus à Decaze, avec certains qui ne connaissaient pas du tout le bassin, ils ont découvert que non seulement on était dans une entreprise, mais qu'on vivait sur un territoire, qu'on pouvait avoir des solidarités sur un territoire, qu'on pouvait défendre un service public avec une certaine idée du service public que nous, on concevait sur ce territoire. J'ai encore aujourd'hui, moi, des collègues qui ont la larme à l'œil quand on pense à ces moments qu'on a connus, où des gens venaient nous nourrir, tellement qu'ils étaient fiers qu'on se batte sur ce territoire pour faire vivre un service public, nous donner finalement toute notre dignité à être dans cette boîte et à dire ce que nous, on en voulait, et parce que la boîte, elle en voulait. Et je pense que, voilà, on ne peut pas tout faire au syndicat. D'ailleurs, on n'est pas venu ici ce soir pour expliquer ce qu'il faut faire. On est juste venu témoigner du vécu humain qu'on a eu. Et que je pense que la présence des syndicats, et en tout cas c'est ce qu'on s'emploie à la CGT, c'est en tout cas déjà se réapproprier les choses dans le milieu du travail, y compris en tant que retraité aussi, hein, puisqu'on ne s'arrête pas aux actifs. C'est juste se dire, voilà, recommencer, parce que je le dis à tous les collègues, moi ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est que la société d'aujourd'hui, elle t'impose comment tu dois réfléchir et penser. Et je trouve que la première...
De façon insidieuse.
Voilà, très insidieuse. Et la première des bagarres qu'on mène et la première des victoires qu'on gagne, c'est quand on commence à réapprendre à quelqu'un, à réfléchir par lui-même. Et c'est vrai que ce genre de soirée contribue aussi à ça, c'est-à-dire à se dire, on n'est pas mis dans un carcan, on n'est pas mis dans... Oui. On se dit entre nous, voilà, comment on concevrait les choses de manière différente, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux pour vivre. Moi, je suis vachement fière d'une de ce que j'ai pu réussir, en tout cas à titre personnel, parce que je suis rentrée dans le combat. Et très fière de penser que si notre syndicat, et quel que soit le syndicat, amène au moins cette ouverture d'esprit, je pense que la société, elle renclenchera dans notre sens grâce à ça. Alors chacun... dans sa vie, à sa façon, avec son voisin, avec dans le boulot, si on peut le faire dans le boulot, mais ailleurs, partout. Mais voilà, je pense que c'est... Nous, on voulait témoigner de ça aussi, parce qu'on en sort très grandi, on en sort plein de convictions, on est des gens indignés et persuadés qu'on peut faire autrement. Et si de temps en temps, on peut remettre les choses dans notre sens, alors on continuera de le faire, en tout cas.
Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurence. J'ai un profond respect pour chacune des batailles que vous avez menées, chacun à son niveau. Vous, il y avait sans doute d'autres personnes qui l'ont fait ici, sans être syndicaliste et tout. Mais je voudrais mettre en perspective un autre modèle. On parlait de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont des gens qui, hors syndicalisme, hors politique, hors... dogme sociétal ont décidé de faire autrement. Ils l'ont fait dans la joie.
Ils sont pas.
Attends, Jean, je voudrais finir. Jean, je voudrais finir, s'il te plaît. Je ne dis pas que c'est pas politique. C'est profondément politique, justement. Mais ils l'ont fait sans carcan, sans syndicat, sans patronat, sans dogme sociétal. Ils l'ont fait. Ils se sont battus et ils ont morflé autant que vous. Vous. Qui mettait ce soir, parce que c'est le thème du débat de ce soir, une forme syndicaliste, tu vois. Mais il y a d'autres combats sociétaux qui peuvent se faire avec des personnes parfaitement intégrées dans la société, qui ont un autre modèle et qui n'adhèrent à aucun dogme. Aucun. Aucun. Tu vois ? C'est ça que je veux mettre en perspective. Je veux dire, le combat syndical est très important, notamment, une seconde, notamment dans la société de Quentin, parce que c'est, pour moi, ce n'est pas une société, Quentin, je suis désolé, hein, mais je donne mon avis, tu peux ne pas être d'accord, mais ce n'est pas une société, c'est du capitalisme à l'état pur, quoi, le Marco.
Oui, bien sûr. Ouais,
et forcément, avec toutes les dérives que ça engendre, le capitalisme. Je comprends, toi, que tu t'es battu dans ton entreprise, tu as obtenu ce que tu voulais avoir, ou en partie en tout cas. Et c'est vrai que ça génère des sentiments on se regroupe, ça tire la larme à l'œil, c'est très émotif. Mais bon.
C'est un combat qui existe dans cette société-là.
Dans cette société,
qu'on vit là.
Il peut y avoir une autre société, utopique.
Mais quelquefois, ça.
Il me semble, enfin, moi, je vais essayer de réconcilier les deux points de vue. Ils sont pas. Mais
moi, je suis pas fâché. Hein.
Ouais. Non, mais il me semble que. Les changements de société ne peuvent venir que des gens.
Oui.
Et à partir du moment où quelqu'un fait un pas dans l'appropriation de sa vie, de la société autour de lui, des gens qu'il rencontre, il me semble que ça va dans le sens de ce que tu dis, toi. Et ils ont utilisé un moyen syndical qui a montré sa puissance, mais qui montre aussi les limites de la puissance, parce qu'on voit qu'il y a des combats qui sont perdus, même dans le milieu syndical. Mais ça n'empêche, il me semble qu'il faut partir et marcher. Je ne parle pas de ceux qui marchent depuis un an, simplement, mais ou un an et demi. Mais il faut que les gens progressent dans leur intérieur. Tant que tu ne les as pas en train de progresser dans leur intérieur, tu ne pourras jamais changer de société. Et ça ne s'impose pas de l'extérieur. Ça se témoigne. Ça se témoigne. La ZAD a témoigné des choses. Et ces choses étaient tellement dangereuses qu'on a vu la quantité de pouvoir mécanique qui était en face.
La réaction du pouvoir est proportionnelle.
Mais quand il te dit qu'ils sont dangereux, il ne te l'a pas dit qu'ils étaient dangereux. Seulement ce qu'il y a, c'est qu'ils vont devant les tribunaux et ils se font asquer. Tu comprends ? Donc là, il y a asquer. Asclé, c'est quand tu prends une bûche que tu la fends en deux. Quoi. Donc ça veut bien dire quelque part que le pouvoir qui existe se rend compte des dangers et il a une réponse sur chacun de ces dangers.
Oui, ça tout le monde le sait depuis 50 ans.
Oui, non, mais je veux bien que tout le monde le sache. Mais ce qui veut bien dire que eux, ils ont fait quelque chose à la ZAD, ils ont fait autre chose, mais qui est destiné finalement à ce que l'être humain puisse profiter de sa vie. Voilà. Mais bon, alors changer de société, parce que c'est bon. Moi,
je suis trop radical.
Non, mais c'est pas un problème de radical. On est tous conscients que le capitalisme est quand même l'ennemi général, mais il faut que chacun avance et toutes les méthodes sont bonnes pourvu que ça avance. Et voilà, donc la ZAD, elle a fait avancer. Et, quand on voit les réflexions sur les architectes qui sont allés visiter les choses qui ont été construites dans la ZAD et qui disent « Ah, il y a des choses quand même qui sont super là-dedans qu'on n'avait jamais pensé. »
C'est des charpentiers et tout qui ont monté les
charpentiers. Mais non, mais c'est pas les charpentiers, ils ont
appris. Mais oui, mais c'est un métier.
Ils ont appris et ils ont apporté des choses nouvelles. Mais il n'y a pas que les charpentiers, il y a ceux aussi qui ont travaillé avec la charpentier, oui.
Quand tu dis on avance tous, bon après il faudrait se revoir à d'autres moments pour discuter profondément de ça, mais moi si je reviens au mouvement syndical et aux luttes qui ont été menées depuis 40-50 ans, bon voilà, on perd.
Ah oui, on perd.
Et il y a des gens qui mettent, qui essaient de réfléchir à ça en disant pourquoi on a perdu, parce que c'est intéressant de se dire pourquoi, qu'est-ce qui a failli quoi. Et moi, je pense aussi que c'est dans le message qu'on a fait passer, c'est qu'en fait, on s'est aplati à un moment donné sur des revendications. C'était le donnant-donnant, c'est le côté réformateur des choses, quoi. Alors après, ouais, la majorité des gens ne sont pas OK pour aller à fond dans le truc un peu radical, mais n'empêche que c'est ça, quand on dit répartition, partage des richesses, on a accepté le fait de laisser aux dominants la faculté de nous piquer encore plus sur, sur la richesse créée par nous. Et donc, à un moment donné, on a failli... Alors, il faudrait reparler de l'histoire, reparler quand on dit qu'effectivement, à un moment donné, la CGT, le Parti communiste, je ne suis pas communiste et je ne suis pas la CGT, donc ça ne me dérange pas de parler de ça, mais ils étaient très nombreux, quoi. Ils étaient super nombreux et on a bien vu qu'à un moment donné, il y a eu une partie aussi de ce mouvement, on va dire justement cette politique, parce qu'aussi ils avaient une faculté énorme, je ne dis pas qu'il faut y revenir, parce qu'il y avait un pendant négatif aussi, c'était qu'à l'école. Eh ben, l'instruction, ça passait aussi par le parti. Donc, il y avait aussi... ça existait, le conditionnement. Oui. On est pour, on est contre, mais il y avait quand même... juste pour dire que oui, par rapport à cette lutte, là, on a failli. Parce qu'on s'est dit, il faut négocier, il faut réformer, alors on va accepter. Et c'est... c'est pourquoi on est là, moi, je pense.
Mais il y a un côté qui a été nécessaire. Le consensus a été nécessaire à un moment donné. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le consensus, il n'a plus lieu d'être. Il faut être radical.
Je pense que tant que le pouvoir aura comme moyen de tous les moyens de communication, il se servira toujours du pain et des jeux. Et au travers des siècles, ça a toujours fonctionné comme ça. Et les populations vont dormir. Il y a quelques-uns qui se rebellent de temps en temps, mais ça s'arrête là.
Donc, il a raison, 90% des médias appartiennent à 9 milliards. Mais c'est pas ce que je voulais dire.
Les lois sur la presse de 1945 sont mortes il y a longtemps.
Des normes, dont j'aime bien. Mais ça lorsqu'on est dans une entreprise, qu'on combat le patron, qu'on essaie d'avoir un adversaire, pourquoi on n'envisage pas, pourquoi on ne parle pas de l'autogestion? Alors que c'est vraiment l'avenir, ça.
Il en a parlé de la ville. Oui. Il y a des circonstances.
Visiblement, ce qu'a dit. Qui a plus d'employés que la région Nord.
Qui c'est ça?
Hein?
Ton dragon? C'est le chinois?
Ton concurrent,
mon dragon? Non, mais j'ai pas bien
compris. Ceux qui veulent taper sur McDo, il y aura 50 boîtes prêtes à remplacer McDo.
Voilà.
Si on ne change pas le système.
J'aime bien quand tu dis il faut que les gens réfléchissent à penser, à être autonome, mais il faut savoir que ça existe. Donc il faut bien en parler de ces trucs-là. Et sur une soirée où on parle justement des luttes syndicales dans l'entreprise, tout ça, on n'a pas la solution qui supprime les grèves. Qui supprime le combat avec le patron, c'est l'autogestion.
C'est pour ça. Il me semble que le paquet de paquet
de j'ai débuté par.
J'ai vendu dans une notion de service public. C'est compliqué.
Oui.
Le projet, quoi. Le projet de société.
C'était pas l'objet de François.
Quand je viens reprendre la poste, je suis pas sûr que. Ils vont pas vouloir de nous.
Dernière chose, c'est possible aussi que si on se focalise sur l'autogestion et le travail, on est aussi perdu.
Oui,
parce que c'est pas forcément le travail qui va nous sauver. On buvait un coup dehors tout à l'heure, je ne sais pas si c'est qui me disait, mais c'est pas cette valeur travail qu'on a en gros depuis. Mettons 500-600 ans, mais très fortement depuis 150-200 ans, et encore plus fortement peut-être depuis après la guerre, où vous allez tous être heureux parce que vous allez avoir du travail, et que vous allez travailler, et que vous allez avoir un salaire. Et nos mères, pour moi, c'est au niveau de ma mère, qui me disait « j'étais heureuse d'aller travailler, j'ai pu m'émanciper grâce au travail ». C'est pas certain. C'est pas certain que l'autogestion...
Mais tu parles pas du travail, tu parles de l'emploi.
Je parle de l'emploi.
De l'emploi, c'est la création de valeur économique selon la définition capitaliste.
Tout à fait, oui.
Donc, méfie-toi des mots.
Tout à fait.
Parce que Macron parle d'emploi.
Tout à fait.
La question du travail, c'est différent.
Exactement.
Tout fondamentalement différent.
Tout le monde travaille, et comme tout le monde travaille, tout le monde a un salaire, c'est ce qu'on appelle le salaire.
Bonne soirée à tous.
Merci.
Merci.